Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler de l'une des crises les plus importantes que le peuple d'Israël ait jamais connue dans son histoire de nation. Je veux parler donc de la faute des explorateurs. Cette crise s'inscrit dans un mouvement d'évolution qui fait monter le peuple d'un degré qui s'appelle Mitzrayim pour arriver à un autre degré qui s'appelle Eretz Israël. Non pas seulement que nous parlons d'un déplacement territorial entre un pays Égypte et un nouveau pays Israël, bien au-delà, il s'agit de passer d'une petitesse d'esprit à une grandeur d'esprit. Passer de l'enfance à l'âge adulte. L'Égypte ressemble à une enfance. La maman s'appelle Égypte et l'enfant s'appelle Israël. La terre d'Israël est déjà au niveau de la maturité. C'est déjà un accouplement entre un homme et une femme. La femme s'appelle Eretz Israël. Et l'homme s'appelle Am Israël. La différence est énorme, car le lien entre la maman et l'enfant est un lien naturel filial, où l'enfant ne peut pas se détacher à vie de son lien d'enfant par rapport à sa mère, alors que le lien qui nous relie à la terre d'Israël est un lien mature qui nous oblige à faire face à une relation conjugale entre un homme et sa femme, une relation voulue et renouvelée chaque jour qu'il reste avec elle. Il y a donc un choix, il y a donc une responsabilité et c'est quelque chose de beaucoup plus fort et qui est tout le temps soumis à la condition de vouloir ou de ne pas vouloir. En tout cas, au niveau de l'individu qui peut se détacher de cette terre d'Israël et donc de mourir dans un état infantile où il revient en quelque sorte dans les jupes de sa maman, comme s'il avait du mal à quitter son père et sa mère, comme s'il était dans un complexe d'Œdipe non résolu. Ce n'est pas par hasard que pour se marier, la Torah nous dit « Al-ken ya'azov ish et aviv ve'et imo ve'dabak ve'ishto ». C'est pour ça qu'un homme devra obligatoirement lâcher son père et sa mère pour adhérer à son épouse. Sans laisser le père et la mère, on ne peut pas atteindre le degré du mariage. C'est une condition sine qua non. Et quiconque ne respecte pas cette condition, eh bien, ne peut pas développer une vie conjugale, normale, équilibrée et harmonieuse. Donc ce livre de Bamidbar, comme son nom l'indique, c'est un livre donc, du désert, donc d'une traversée de désert, dans laquelle toutes les difficultés du peuple d'Israël, au niveau collectif et au niveau individuel, s'inscrivent. Cette traversée, c'est une épreuve qui nous fait sortir d'un élément rassurant, bien que petit, qui s'appelle l'Égypte, pour aller vers un élément qui est beaucoup plus élevé, qui s'appelle la terre d'Israël et qui demande, qui exige un amour, un désir. Eretz Chemda, la terre d'Israël, s'appelle la terre de la convoitise. Si je ne la convoite pas, si je ne la désire pas, elle ne se donne pas.
Vous avez dit qu'on parle d'un, on sort d'un élément qui est connu.
L'Égypte, c'est un élément qui est rassurant.
On va vers un élément
Et on va vers un élément qui est très connu, mais oublié. C'est-à-dire, on revient vers nous-mêmes, mais nous avons oublié qui est ce nous-mêmes, qui est cette identité. Et donc, il faut un travail de traversée de désert pour oublier ce qui m'a rassuré jusqu'à présent, mais qui n'était pas mien, pour arriver à quelque chose dont j'ai peur, mais qui, paradoxalement, est un élément qui me correspond. Ken. On a déjà vécu ici, dans notre racine, puisque Adam Arishon était déjà dans ce lieu, il a été renvoyé de ce lieu en tant que potentiel peuple. Donc c'est déjà au niveau de la matrice, nous connaissons cet endroit. Même avant David Ameler, déjà tous les éléments qui étaient avant de quitter la terre d'Israël pour revenir vers la terre d'Israël. Il y a quelque chose de méconnu, mais qui est en réalité la chose qui correspond à notre propre nature. C'est comme si notre neshama, qui est inconnu, alors que c'est la chose la plus proche de nous. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes, c'est notre identité, notre âme, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas plus moi que ma neshama. Et pourtant, c'est le degré que je ne connais pas, que je connais le moins. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici de complexe qui, paradoxalement, me met face à une situation où la chose la plus moi-même est la chose la plus méconnue. C'est incroyable. Et en fait, tout le travail de ma vie, c'est un retour. Si vous voulez, dans le langage hébraïque, une teshuva. Donc je reviens en fait. Je reviens vers un élément que j'ai toujours connu, qui a disparu momentanément et qui revient, vers lequel je reviens. Rappelez-vous que nous avons déjà vu ce phénomène dans la Torah. La Torah est déjà connue par nous puisque nous l'avons étudiée dans le ventre de notre mère et nous ne faisons qu'y revenir, que retrouver. D'où le terme de l'étude de la Torah, shoné. Shoné qui veut dire revenir. Mishneh, pam shnia. Une deuxième fois, c'est un retour, c'est une révision. Donc la Mishnah n'est qu'une révision de notre véritable structure intérieure. Je reviens à ce que j'ai déjà connu et que j'ai déjà oublié. Et donc la Torah est enseignée à ce fœtus dans le ventre de sa mère. Et lorsqu'il sort du ventre, au moment de l'accouchement, il oublie. Mais c'est le même phénomène, il doit revenir à son étude durant toute sa vie. La terre d'Israël, c'est la même chose. Nous y sommes sortis et nous devons y revenir. Et c'est en réalité un retour à la maison. Pourquoi ça nous paraît difficile? Parce que ce retour a été oublié. Cet élément a été oublié, plus exactement. Donc ce retour paraît difficile. Comme si tu allais vers quelque chose que tu ne connais pas, qui n'est pas le tien. C'est pour ça que cette chose n'est pas claire. La terre d'Israël n'est pas claire. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham d'aller vers cette terre, il ne lui dit pas vers quoi exactement. Il lui dit « El ha'aretz asher ar'eka » vers la terre que je t'indiquerai. Pourquoi tu ne parles pas clairement? Mais tout simplement parce que la terre d'Israël se redécouvre au fur et à mesure que je me représente ce qu'elle était au départ dans ma tête, dans mon vécu. J'y étais déjà. Donc je dois revenir. Et au fur et à mesure où je reviens vers elle, elle s'ouvre, elle dévoile des parcelles qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est clair? Donc nous sommes toujours dans un processus de retour, que ce soit au niveau de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire je reviens à la Torah que j'ai déjà connue dans le ventre de ma mère. Nous revenons ça s'arrête pas? Deux ou trois fois? Au niveau territorial, c'est la même chose. Là, je peux vivre 300 ans. Congelé. C'est Terminator, ça n'existe jamais, ça se termine. Même si tu enlèves la prise, il continue à vivre.
Là, ça va être bizarre.
5 secondes. C'est un retour donc continuel et au niveau de l'esprit de l'homme et au niveau géographique, puisque nous revenons vers la terre que nous connaissions déjà, et au niveau temporel, c'est-à-dire nous revenons à un temps déjà connu. Donc trois éléments de ce monde, les trois éléments essentiels de ce monde, le temps, l'espace et l'être humain, la conscience humaine, eh bien, nous ne faisons que revenir vers ce que nous avons déjà connu. On ne va jamais vers quelque chose d'autre que moi-même. Le temps que nous avons déjà connu, c'est le Shabbat. Nous venons tous d'un grand Shabbat. Et nous repartons vers un grand Shabbat, en passant par 6 millénaires qui sont correspondants à 6 jours de la semaine. Ça veut dire qu'en réalité, on ne fait que revenir tout le temps. Tout le processus de ce monde est basé et ancré dans un système de Teshuvah, en fait, de retour. Si on comprend ce principe, c'est un principe extraordinaire qui d'abord est optimiste, parce que je ne vais pas vers l'inconnu, je vais vers la chose la plus connue, que j'ai oubliée malheureusement. Donc je reviens vers moi. Et c'est en réalité la véritable traduction de ce grand Lech Lecha. Tu vas vers toi, je ne te demande pas d'aller vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose d'autre. Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, de développer quelque chose que tu n'as pas en toi. Je te demande seulement de manifester, d'extérioriser, de cristalliser ce qui est déjà dans ta nature propre. Ça, c'est un principe fondamental du judaïsme. Si on a compris ce principe-là, on comprend en réalité tout le principe de la Teshuvah, qui est en même temps une réponse et en même temps un retour. Ken ?
Pourquoi elle a été oubliée, cette identité ?
Pourquoi on l'a perdue ? Dans ce monde, il y a 2 étapes dans ces 3 domaines, le temps, l'espace et l'homme. La première étape est une étape où je connais les choses, où je les ai reçues. Le seul problème dans cette première étape, c'est que toutes ces choses-là, je les ai reçues gratuitement. Je n'ai rien fait pour les recevoir. C'est comme si ça m'a été collé sans m'en vouloir. Or, les choses que je ne veux pas, ce sont des choses que je ne vis pas. Si tu ne veux pas quelque chose, tu ne peux pas le vivre. Si tu ne désires pas étudier, si tu n'as pas la volonté de l'étude, même si on te bassine toute la journée, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que à implanter en toi au départ un élément que tu devras choisir après. Donc il est quand même important cet élément. Donc Akadosh Baruch Hu a créé une structure dans ce monde où toute chose au départ nous est forcée, nous est donnée d'une manière forcée, obligatoire. Il se passe un moment où nous nous détachons de ce degré-là dans notre vie et nous voulons revenir par choix. S'il n'y a pas cette crise d'adolescence, je l'appelle, il n'y a pas réellement de retour normal, il n'y a pas de fécondation de la chose en question. C'est un rejet obligatoire. Il y a un moment de rejet qui me permet de vouloir revenir par moi-même et non pas parce que j'y étais forcé. D'accord ? De la même manière, tu étais déjà marié dans un monde spirituel. Tu le savais ou pas ? Voilà. Tu as divorcé déjà. Dans le ciel, on t'a séparé. Ton épouse court dans le monde. Il va falloir que tu la trouves et que tu la désires. Et que tu veuilles la retrouver et prendre 2 témoins pour dire, tu te rappelles, c'était elle. Je viens de la retrouver. Si tu ne fais pas cet acte-là, si tu ne veux pas, tu ne peux pas te marier. La même chose la Torah, tu l'as reçue forcée dans le ventre de ta mère, tu n'avais pas le choix. Quand tu sors du ventre, tu as oublié cette Torah. Viens un ange et te fait oublier cette Torah. Pourquoi ? Pour ton bien. Parce que si tu ne veux pas de cette Torah, ça ne sert à rien qu'on te la redonne. Donc il va falloir que tu développes toute ta vie une seule chose. Le vouloir. Le vouloir s'appelle dans le langage de la Kabbalah la Neshama. D'accord ? Il faut savoir faire un ustensile de toi-même, c'est-à-dire un trou. Tu dois être avide. C'est bien le terme en français, non ? Je suis avide de recevoir. Si tu n'es pas avide, tu ne peux pas être à plein. D'accord ? Donc il faut que tu sois en réalité dans un désir retrouvé, renouvelé, dans un languissement. Tout ce processus se passe dans tous les domaines. Le temple de Jérusalem était déjà construit avant qu'on le construise. Il a été détruit et nous devons le revouloir. Il a été détruit avant qu'on le détruise, ça aussi c'est encore autre chose. Mais il a été construit, c'est encore plus grand. C'est-à-dire avant même la création du monde, le temple est déjà là, potentiellement parlant. Puisque le monde vit déjà au niveau de ce troisième temple au départ. Donc on est obligé de casser la structure pleine, harmonieuse du départ pour que ce monde, en fait, soit dans le manque. Et tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est combler ce manque. Remplir ce vide. C'est pour ça que nous sommes là. Et si tu ne veux pas, tu n'as rien de réellement dans le vécu. Tu fais les choses d'une manière robotisée et tu n'es pas dans la chose en question. Et je vous le dis, si vous n'avez pas un désir de vouloir recevoir quelque chose, j'ai dit tout à l'heure le terme de Neshama, mais plus exactement dans les détails, c'est le degré de Nefesh. Et c'est pour ça que dans la Torah, on ne dit pas Imatarotse si tu veux. Ce n'est pas un terme que la Torah utilise. Elle utilise un autre terme. Comment est-ce que la Torah dit si tu veux? Im yesh et nafshecha. Regardez, c'est une formulation qui est bizarre. Si ton âme veut. C'est-à-dire que c'est seulement si ton âme, même au plus bas degré, ton âme animale, qui est habillée dans ton sang, veut la chose, tu l'auras. Im yesh et nafshecha. Si tu ne veux pas, avec cette intensité-là, tu n'auras pas la chose réellement. Même si elle est chez toi. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des choses, mais vous ne les avez pas, vous ne les possédez pas, parce que vous ne les voulez pas vraiment. Une chose que tu veux vraiment, tu as peur de la perdre à chaque instant. Vous avez conscience de cela ?
Il faut combien de vies pour réaliser ce potentiel ?
Il y a fait. C'est une bonne question. Ça dépend de la grandeur de l'être. Un être est censé travailler et finir son travail directement, la première fois. Seulement, on est tellement dans l'oubli de ce que nous sommes venus faire que nous nous perdons dans un monde qui cache, qui obstrue la vérité de départ. C'est pour ça que ce monde s'appelle une grande cachette. Olam, Ne'elam, tout est caché. Et c'est dans ce Olam que tu dois étudier, tu dois chercher. Allam, en arabe, veut dire étudier. Et maître. Slicha ? Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qui est extraordinaire et qui nous pousse à bien comprendre la structure. Tout ça pour nous dire, et on n'a pas commencé encore notre texte, qui comme d'habitude n'est qu'un prétexte, mais ce n'est pas grave, moi je l'ai écrit. Il sortira dans le livre, Be'ezrat Hashem. Le secret de ce livre de Bamidbar, c'est le secret de la mise de l'homme face à lui-même. Tu es dans un désert. Le désert, c'est en réalité les retrouvailles avec soi. C'est le silence complet. Le désert ne te fait pas rencontrer généralement avec les autres, si ce n'est qu'avec des éléments de toi que tu vois chez l'autre.
Comme
Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le désert t'oblige en fait à faire face à tes propres voix. V-O-I-X et V-O-I-E-S. C'est-à-dire que tu dois en fait retrouver ton élément essentiel. Donc on te place dans un désert. Et ce désert peut devenir le désert de l'oubli, le désert de ta vie, la traversée de ton désert, ou bien le désert du souvenir, où il te parle, où il se tait. Bamidbar ou Bamedaber. C'est-à-dire le désert peut être dans le silence complet ou dans la parole complète. Quand tu es dans la parole, quand tu es dans l'écoute, tu peux écouter la voix céleste même dans ce désert. Dafka dans ce désert. Précisément dans ce désert. Et donc tu vas faire face à tous les problèmes. Tes problèmes avec toi-même. Tes problèmes avec tes semblables. Tes problèmes avec ton peuple. Tes problèmes avec d'autres peuples. Des problèmes psychologiques. Des problèmes de guerre. Des problèmes de territoire. Des problèmes d'intérêt. Tout ça, c'est le livre de Bamidbar. En étudiant ce livre, j'étudie en fait ma possibilité de me placer face à tous les problèmes de ma vie. Donc il faut étudier ce livre d'une manière extraordinaire. Plonger dans l'étude de ce livre, c'est plonger dans vos problèmes de toute votre vie que vous allez rencontrer. Et si vous comprenez la clé, la résolution de chaque problème selon ce qu'il s'est passé, bien vous allez comprendre dans votre vie. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas résolu, par exemple, le problème dans notre parasha de Shlach Lecha, qui n'ont pas résolu le problème du face-à-face avec notre terre d'Israël, eh bien, vivent encore en dehors de cette terre. Parce qu'ils n'ont pas encore réglé le problème. Ils n'ont pas encore compris la solution. Donc, en fait, le problème se répète. C'est comme si tu as raté une matière dans ton examen de bac. On te fait repasser cette matière. Combien de fois? Toute ta vie. À chaque paracha que tu reviens, tu peux vivre 70 ans en dehors de cette terre et à chaque fois retomber dans le piège. Mais toi, tu ne comprends rien. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu es religieux et tu es allé à la synagogue, tu es revenu de la synagogue et tu as lu la paracha et tu manges kasher. Mais tu n'as rien compris en réalité à cette lecture. Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav HaShalom, dans le Zohar, dit quelque chose de terrible. La plupart des hommes d'Israël rentrent à la synagogue vide et sortent vides. Bla 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 bla. C'est pas parce que tu as écouté le Shaliach Tzibur que c'est fini. Tu n'as pas réglé ton problème. Il y a un problème ici. Il y a des explorateurs face à la terre d'Israël. Il y a un peuple tout entier qui ne sait pas gérer. Si toi-même tu continues et tu te suffis de la lecture de celui qui a lu Shabbat et tu rentres chez toi pour manger ta tafina, t'as rien compris.
Et là, ils sont en face de leur potentiel.
Justement. Alors, à nous de comprendre, même nous qui sommes déjà sur cette terre, à chaque fois que je refais face à cette paracha, que cette paracha revient en face de moi, puisque nous allons la lire Shabbat, eh bien, je dois me placer par rapport à mon accès, mon degré. Comment est-ce que je m'adresse à cette terre? Quelle est notre relation? Est-ce que c'est une relation d'amour? Est-ce que je la désire? Est-ce que j'y suis par force? Est-ce que j'aimerais bien être ailleurs, mais il faut être ici? Mais tout ça, ça doit se résolver, se résoudre. S'il n'y a pas de solution, tu n'es pas sorti encore. Tu as lu ta paracha, entre guillemets, pour rien. Ça ne suffit pas ta lecture. C'est vrai, tu es un bon religieux. On va te marquer un point. Bravo, et alors? Est-ce que ce texte t'a pénétré? Est-ce que tu l'as invité dans ta vie? Est-ce que tu as appelé le texte? L'ikro en hébreu, ce n'est pas lire seulement, c'est aussi appeler. Est-ce qu'il est sorti des lettres pour s'habiller dans ton être? Parce que les lettres rassurent. Elles sont là, elles sont figées. Et quand on rentre le Sefer Torah, on est tranquille. Pour 2 jours encore. Ou pour 1 semaine. Il est dans son armoire, moi je suis tranquille. Rentrez-le vite parce qu'il nous étouffe notre vie. S'il vous plaît, sortez-le, mais pas trop long. 1 demi-heure dehors, c'est grand max. Rentrez-le dans son armoire. Parce qu'un Sefer Torah dans ma vie, ça m'étouffe, ça me demande, ça exige de moi. C'est comme si Dieu descendait sur terre. Ça, c'est la grande peur de faire face à ce degré de grandeur que nous devons devenir. Parce que nous sommes grands dans notre nature. Ve'esra le goy gadol, vous êtes grands par nature. Mais vous avez peur de revenir à cette grandeur. Vous avez envie de rester petit. Vous êtes en prison et ça vous plaît, vous êtes rassuré dans cette prison.
Il y a quelque chose qui est difficile parce que dites qu'on a un potentiel, l'âme elle a besoin de passer par le corps pour faire une expérience, mais le corps il est lourd. C'est-à-dire que pour réaliser tout ce qu'on a déjà appris, il faut passer au-dessus de la lourdeur du corps. Et le mal, les mauvais, les méchants, eux, ils ont pas ce problème-là. Ils utilisent que la lourdeur du corps. Il n'y a pas l'âme qui doit la soulever. C'est ça le problème. C'est de réapprendre tout ça au corps. C'est difficile de tout réapprendre. C'est lourd.
Parce que c'est difficile, c'est vrai. Si c'était facile, ça n'aurait pas été dans la réalité. Les trois choses les plus difficiles de ce monde, c'est écrit dans la Gemara. La Torah, Eretz Israël et le Olam Abba. Ce sont trois choses les plus difficiles, mais ils sourient avec beaucoup d'épreuves. Ça veut dire que je dois forcer pour que ça marche. Quand tu fais des abdominaux, c'est au moment où ça commence à faire mal que tu travailles. Avant cela, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Si tu as l'habitude de faire 30 abdominaux, quand tu arrives jusqu'à 30, tu es tranquille, tu pédales. Quand tu arrives à 30, tu commences à sentir la douleur, c'est là où ça travaille pour la prochaine fois.
Le corps,
a besoin de ça. Il aime ça dans sa structure intérieure, mais il a oublié. C'est pourquoi même dans les termes de nos sages, on dit que quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise « je le veux ». Parce que dans sa conscience intérieure, c'est ce qu'il veut, mais il a oublié. Il a tellement oublié qu'il faut le frapper, le secouer, pour qu'il retrouve sa véritable mémoire de base. C'est bien ? C'est ainsi que nous arrivons à la paracha de Shlach. בפרשת שלח לך אנו נפגשים עם אחד המשברים המרכזיים של ישראל במדבר המחבר בין מצרים לבין ארץ ישראל. Donc dans cette parasha de Shlach, nous allons faire face à la terre d'Israël, mais c'est une crise. Une crise que va passer le peuple dans ce désert qui devrait, par sa structure intérieure, relier la terre d'Israël à la sortie d'Égypte. N'oubliez pas que la sortie d'Égypte a un but. On ne sort pas d'Égypte pour rester dans un désert. Il y a 5 points dans le programme que Dieu donne à Moïse et il lui dit, dans ces 5 points, je te sortirai pour t'amener à la terre. Al cheta meraglim ne'emar ba-Talmud. À tel point, cette faute est grave que le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, à la page 104, nous dit Vaivku hayha'am balayla hahu. Le peuple a commencé à pleurer cette nuit-là. Quelle nuit? Leil Tisha B'Av haya. C'était la nuit de Tisha B'Av. Le peuple a pleuré cette nuit. Amar lahem toda. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël: Atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré d'un pleur gratuit. Mais maintenant vous allez pleurer pour de bon pendant toutes les générations. C'est-à-dire que le soir de Tisha B'Av, vous allez pleurer parce que vous avez pleuré déjà une fois. Qu'est-ce que c'est que ce sens de ce pleur? On a l'impression que c'est un papa nerveux qui veut punir ses enfants parce qu'ils n'ont rien compris et il leur dit: t'as pleuré pour rien, maintenant tu vas pleurer pour de bon. Alors je vous rassure, dans la Torah, la notion de punition n'existe pas. Il n'y a que des notions de réparation. Ça paraît être comme des punitions, mais nous ne sommes pas là. Toute punition qui nous paraît comme telle est en réalité une réparation des choses. Il n'y a que des notions de tikkun. Dieu n'est pas nerveux au point de punir les gens parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout la structure du divin. Le divin a un seul but. C'est de se dévoiler dans ce monde. Et tout ce qui va contre cette volonté infinie, eh bien, reçoit, de par nature, des coups. Mais pas comme punition, mais comme redressage. Redressement de la barre. Kamouvan. She'en bayadut musak shel nekama. Donc dans le judaïsme, il n'y a pas ici de vengeance Elohim divine. al ma'ase adam concernant les actes de l'homme, et la kol ma shehu itbarach poel, parce que tout ce qu'il fait, béni soit-il, ou be megama shel tikun ha'me'uvat bilvad, ce n'est que pour redresser ce qui a été tordu. Lachen, divrei midrash benoga la b'chia le dorot shenikbea betisha be'av. C'est pour ça que lorsque le midrash nous dit que Dieu nous a fixé un pleur jusqu'à la fin des temps, en ce jour de Tisha B'Av, en inyan shel netira, ce n'est pas une vengeance divine, elle a davka inyan shel tikkun chet hameraglim ledorot. C'est-à-dire que dans ce pleur que nous allons pleurer durant toutes ces générations, il y a une notion de réparation. C'est un pleur qui vient réparer et non pas un pleur qui vient comme punition. Slicha? Mais vadaï. Lachen alenu levarer. C'est pour cela que nous devons faire un travail pour comprendre et tchor et chachet la racine de cette faute. Mais vadaï. Kedel le havin, pour comprendre, pour se remettre en question, ech habechia betisha be'av, comment est-ce que le pleur à tisha be'av, les dorot, durant toutes les générations, metaken et toto, comment est-ce qu'elle va réparer la faute? Voilà la question.
Quand tu ne veux pas réparer, est-ce que tu ne crées pas une nouvelle religion? Est-ce que le fait de ne pas vouloir réparer, de ne pas vouloir surmonter l'épreuve, et que tu vois ce Dieu comme un Dieu cruel, parce que c'est souvent comme ça qu'il est représenté dans les autres religions?
C'est comme ça que la chrétienté est née.
C'est né par le fait de ne pas vouloir surmonter cette épreuve et de créer un Dieu d'amour au final qui pardonne tout sans travail.
C'est d'abord en mettant bien en place que l'homme est mauvais par sa nature. C'est-à-dire qu'il ne peut pas. Il est voué à la faute. Il est voué à la destruction. Le peuple d'Israël dit le contraire. L'homme a été créé droit. Asa Elohim et Adam Yashar. C'est seulement les hommes qui ont tout compliqué. Donc en réalité, c'est lié à une faute globale, beaucoup plus globale que cela. Dans les explorateurs, il y a une faute de l'être que nous devons comprendre. C'est-à-dire que nous pouvons malheureusement apparaître comme des explorateurs à n'importe quelle époque. Mais si je n'ai pas compris le sens, la clé de cette faute, je peux réitérer cette faute sans cesse, sans rien comprendre. Et avoir l'impression qu'aujourd'hui, moi, ça y est, c'est fini. C'est une histoire du passé, les explorateurs. Est-ce que vous êtes des explorateurs? Est-ce que nous sommes des explorateurs? Est-ce que nous risquons d'être des explorateurs dans notre vie? Tu avais une question avant.
On a beau se réparer, mais on pleurera toujours.
C'est pas grave. D'accord. À chaque fois que tu répares, tu es en devenir. Tu es dans une forme de perfectibilité infinie. Tu ne seras jamais Dieu, mais tu vas toujours vers l'infini. Et à chaque fois que tu traverses une étape, tu as un extrait de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est une histoire à dormir debout. Le bonheur, ce sont en réalité des instants. Si tu ne sais pas prendre les instants et les vivre dans ce bonheur, tu attendras toujours quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est comme ceux qui attendent la Géoula, alors que même quand elle est en train de s'opérer devant leurs yeux, ne voit rien. Donc en réalité, chaque étape vers l'élément vers lequel tu vas doit être imprégnée de cet élément-là. Si je voyage par exemple vers Yerushalayim, chaque pas, chaque roulement de ma roue dans mon véhicule doit avoir la même couleur que l'endroit vers lequel je vais, vers Yerushalayim. Tu comprends ? Sinon, je ne peux pas vivre l'instant avec le bonheur qui est à l'intérieur. Je suis toujours dans une attente lointaine. Quel?
Mais comment on peut être encore aujourd'hui des explorateurs si on est en Israël, par exemple?
Il y a fait. Tu peux être en Eretz Israël et ne pas savoir renouveler, arroser l'amour de la terre dans laquelle tu es. Tu peux parler du Lashon Hara toute la journée sur tout ce qui se passe ici. Tu veux que je te donne encore d'autres exemples? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être un explorateur tout en habitant ici. Il faut faire très attention. Notre lien, c'est comme ton épouse. Tu n'es pas encore marié. Mais le jour où tu seras marié, tu peux parler de ton épouse toute la journée en mal. Ou bien essayer de retrouver en elle toute la journée quelque chose qui t'a attiré, qui t'attire encore. Et un désir qui te rapproche sans cesse, un petit peu plus. D'elle.
Comment ça se fait qu'Amalek n'est pas sorti à ce moment-là?
Il est sorti. C'est exactement où il est sorti. Amalek est sorti quand? Quand on est sorti d'Égypte. Il n'a pas besoin de venir au moment de la faute. Pourquoi? Parce que c'est lui. Il y a quelqu'un qui fait son travail. Il se dit, j'ai pas besoin de me mouiller. Il y a déjà les explorateurs qui font le travail à ma place. C'est comme le Satan, il se dit, mais je peux prendre des vacances. Ils font le travail à ma place. Quand est-ce qu'il est sorti? Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Là, oui. Là, il apparaît immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il se dit, tiens, je vais être à la retraite. S'ils rentrent en Eretz Israël, c'est fini pour moi. Je travaille plus. Donc là, je dois attaquer. Mais quand le mal vient de la nation elle-même, de l'intérieur, qu'est-ce qu'il a besoin de se mouiller, lui? Tu es déjà dans le doute. Si tu es déjà dans le doute, Amalek est déjà à l'intérieur, il n'a même pas besoin de venir, ni d'apparaître. Oui, mais ce n'est pas son désir, lui. Son désir, c'est que tu n'ailles pas. S'il a réussi que tu n'ailles pas, pour lui, il a gagné. C'est fini. Et là-bas, il a gagné 40 ans déjà. Il est tranquille pendant 40 ans, Amalek. D'ailleurs, quand il va falloir recommencer le processus et rentrer après ses 40 ans, il y a encore une guerre contre Amalek. Puisqu'il est à l'entrée d'Eretz Israël. Ça veut dire que c'est une notion qui vient empêcher une seule chose. Le devenir du peuple d'Israël, peuple. Amalek veut te laisser détail, veut te laisser individu, veut te laisser religieux en exil. Il ne veut pas que tu sois un peuple saint sur ta terre. C'est ça tout le travail de Amalek. C'est ça tout le travail de Balak, de Bilham. C'est ça tout le travail de Hitler. C'est ça tout le travail de tous ceux qui ont empêché Haman. La même histoire. Bivadaï, ça s'habille dans des éléments de ce monde, dans une structure existante dans ce monde, qui va empêcher le peuple d'Israël de faire sa fonction dans le monde, de remplir sa fonction, d'être une nation sur sa terre. C'est ça tout le lien de Amalek. Dans le mot Amalek, il y a le mot Am. Ça veut t'empêcher de devenir un Am, un peuple. Sois individu, tu ne me déranges pas. Et tu dis toute la journée la Gemara dans une petite ruelle à Lyon. Ça ne me dérange même pas. Je vais même te donner des subventions. Contre le peuple d'Israël sous sa terre, c'est-à-dire en souveraineté. Ok, Bevadaï. C'est de l'antisionisme, c'est ça, Amalek. Regardez, c'est la même chose. Quand au moment, peu importe, au moment où le peuple prend conscience qu'il y a un réveil qui se fait pour revenir à la terre, il va se réveiller pour empêcher ça. C'est tout ce qui l'intéresse. Peu importe, c'est un réveil, c'est un moment de réveil. Il y a à ce moment-là un réveil de la nation, il y a déjà une pensée, et c'est au même moment, comme par hasard, où ça se réveille. C'est toujours au moment d'un retour, d'une clé, d'une ouverture, d'une sortie d'autoroute.
C'est déjà un retour avant.
C'est ça le Inyan, c'est pour ça que ça commence. Ça se réveille chez lui quand il y a un retour déjà qui est commencé, qui est de, au, même au niveau de ta pensée déjà. Ken. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est les histoires des explorateurs. C'est Amalek habillé, peu importe comment. Parfois, il peut venir en tant que peuple, parfois, il peut venir en tant que notion. Si tu développes en toi une notion amalécite, je m'en fiche qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas. Tu comprends? Si déjà toi, tu te présentes comme ça et tu agis de cette manière-là, tu as déjà Amalek en toi, Chas v'Shalom. Il faut bien comprendre une seule chose que nous avons tous tendance à oublier, surtout les gens qui sont dans la Torah. C'est que Dieu ne demande pas au peuple d'Israël de venir habiter sur cette terre. Ce n'est pas ça qu'il nous demande. Dieu nous demande de venir être souverain sur cette terre, pas seulement y habiter. Le Maharal, dans son livre clé Netzach Israël, le dit clairement. Votre retour en Israël, ce n'est pas pour venir habiter ici. Bereshut Atzmam. Voilà ses mots à lui, au Maharal. Sheyu Bereshut Atzmam. Tant qu'ils ne sont pas indépendants, ça ne marche pas. Ça veut dire que tu peux être ici sous domination étrangère, que Dieu préserve, c'est la même chose comme si tu étais à l'extérieur. Donc il faut faire très attention, la terre d'Israël ne suffit pas elle-même. Il faut un élément politique de souveraineté, ce qu'on appelle aujourd'hui la malchoute, pour que cette chose-là se réalise pleinement.
Là, il y a une sorte de domination, le fait qu'on n'est pas à l'endroit du temple.
On est à l'endroit du temple, mais on a nous-mêmes décidé de le donner à quelqu'un d'autre. C'est différent. C'est-à-dire, je suis tellement généreux que même quand quelque chose m'appartient, je te la donne. Mais c'est toujours à moi. Attention. Quand on a dit le jour de la guerre des six jours, « Har habait beyadenu », ce n'était pas un mensonge. Le monde du temple nous appartient aujourd'hui. Il est entre nos mains. Et nous, nous donnons les clés à d'autres responsables là-bas. Peu importe. C'est parce que nous avons créé cette situation. On peut y rentrer en 5 minutes là-bas. C'est nous qui ne voulons pas entrer. Peu importe. Parce qu'on a raté une certaine occasion au niveau de l'histoire. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'on a raté l'occasion en 1967 de rentrer. C'est tout simplement qu'on n'était pas mentalement prêt à grandir. C'est tout. C'est comme si je te jetais une pomme de terre bouillante et t'as pas envie de la prendre dans tes mains, tu la rejettes à quelqu'un d'autre. C'est tout. On a un tellement gros cadeau qui nous est tombé qu'on l'a lâché complètement, on a eu peur. On s'est dit, attends, je sais pas quoi faire avec, je suis trop petit moi pour ça. Arrête de me parler de Beth Amigdash, machin, je suis encore un petit garçon.
Ken.
Aujourd'hui, oui, mais c'est pour ça que la dernière guerre est autour de Yerushalayim et sur Yerushalayim. C'est ça la dernière guerre de l'histoire moderne que nous sommes en train de vivre.
On
n'était pas prêt à revenir, à grandir. On avait peur de grandir. D'ailleurs, même les territoires que nous avons pris en 67, ce n'étaient pas des territoires prévus avant. C'est venu au fur et à mesure de la guerre. C'est-à-dire Dieu fait faire des choses à son peuple que même le peuple n'est pas conscient. Mais qu'il ne veut peut-être même pas. Toutes les choses de notre histoire se font de cette manière-là. Et aujourd'hui, c'est pareil. Si tu écoutes certains dirigeants, ça suffit, on va au côté. Et même ça, peut-être pas. Mais moi, ça ne m'intéresse plus d'aller au côté. Moi, je veux aller à 15 mètres dedans. Je veux traverser la pierre. Aller aux côtés, c'est se bloquer devant un mur superficiel, extérieur, aussi sain soit-il. C'est pas ça que je veux. Je veux pas arriver toute ma vie à aller aux côtés. Je vais aller au Beth Amikdash. Pourquoi faire? Pas pour narguer les nations, au contraire, pour leur apporter la lumière qu'elles manquent aujourd'hui. Elles sont dans le noir, mais elles comprennent pas que l'éclairage vient de là-bas, du retour d'Israël là-bas.
La force pour pouvoir gouverner cette terre-là, elle vient de cet endroit-là.
Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que tant que nous ne sommes pas capables mentalement et que nous voulons rester dans un status quo, ça veut dire qu'on n'a pas envie de grandir. J'ai des Kevek Dila. J'ai des douleurs de... Quand je grandis, j'ai des douleurs dans les os. Alors j'ai peur, ça me fait trop peur de grandir trop vite. Laisse-moi grandir à ma vitesse, à moi. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a des mouvements qui accélèrent un petit peu, qui poussent le processus, et d'autres qui essaient de le reculer. Mais l'histoire est beaucoup plus forte que nous.
C'est une petite faute des explorateurs.
Mais voilà, c'est la même faute. C'est la même faute qui se répète. C'est pour ça que c'est la suite du cours. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas là-bas, dans cette faute-là? Est-ce que tu es dans cette faute-là ou pas? Est-ce que moi j'y suis ou pas?
Est-ce qu'il va y avoir une sorte de...
Il peut y avoir une cohabitation sur le mont du temple à condition qu'Israël soit serviteur du Beth Amikdash. Oui. C'est-à-dire, nous sommes responsables du Beth Amikdash, du temple, on fait marcher cette machine et toutes les nations du monde y profitent, bien sûr, on profite. Lui, il parle du Beth Amikdash lui-même, il parle juste de l'endroit des corbanotes. Parce que au niveau du Beth Amikdash, le Saint des Saints, il est à l'endroit où ils ont construit la mosquée, donc c'est pas possible. D'accord? Pourquoi ils ont construit la mosquée par-dessus?
Parce qu'ils
savent. intuitivement que c'est là-bas que ça se passe. Ben voilà, il puise une force grâce à ce point culminant que nous n'avons pas su voir, entrevoir.
On dirait qu'ils ont la force de faire descendre à leur façon Hachem sur terre.
Ils n'ont rien, ils n'ont aucune force. Dieu les utilise pour nous réveiller. Ils sont là que comme moyen, c'est un bâton. Il ne faut pas les prendre pour des éléments à part. C'est Dieu qui parle à travers leur bouche et à travers leurs couteaux et leurs armes pour nous réveiller à quelque chose.
Mais ils ressemblent un peu à
Yehuda,
c'est ça que je veux dire.
Ils ont une sereine messirut nefesh. Ils ont une messirut nefesh dans la klipa. Oui. Et nous devons apprendre de cela. Betachbulot ta'aselecha milchama. Il est écrit dans le t-shirt de notre structure de l'armée secrète qui s'appelle Duvdevan. Tu feras une guerre avec très en étudiant ton ennemi. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, il n'y a rien à faire, si ce n'est qu'un élément qui va dépasser, à mon avis, la structure naturelle pour changer les choses, du style un tremblement de terre ou quelque chose de ce style. Okay. Parce que c'est, on n'attend pas. C'est parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je te parle d'aujourd'hui, avec la mentalité d'aujourd'hui. Demain, ça peut changer grâce à nous. C'est-à-dire, si nous éduquons notre peuple à autre chose, oui. Mais au jour d'aujourd'hui,
c'est par
une situation qui nous dépasse. Parce qu'on n'est pas encore prêt, malheureusement. Non, le top, ce serait que nous réveillons à ça et qu'on explique aux nations du monde pourquoi nous voulons reconstruire ce temple. Quel sera leur gain?
Ou alors qu'ils se convertissent au judaïsme aussi.
Non, ils n'ont pas besoin de se convertir. Le judaïsme ne doit pas convertir les nations.
Non, mais si demain ils le veulent, si eux ils le veulent, si eux ils se sentent comme judaïsme.
Ça c'est autre chose, ça. Ça c'est autre chose. C'est des Shiva mitzvot b'nei noach, où chacun qui applique les 7 mitzvot s'appelle tzadik et il a le droit au lamaba. Rambam, il chote Avodah Zara, 4. Tov. Alors de quoi avait-il peur ces meraglim? Ahacha shel meraglim haya kashur lema shekatuv b'Torah b'parashat Va'etranan. Eh bien, les meraglim avaient peur de ce qui est écrit dans la Torah, dans la parasha de Va'etranan, dans le livre de Devarim. Kitolid banim uvnei banim venoshantem ba'aretz veishratem. Lorsque tu arriveras sur la terre, tu vas engendrer, tu auras des enfants, et tes enfants vont avoir eux-mêmes des enfants. Venoshantem ba'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire venoshantem ba'aretz? Et vous allez vieillir sur la terre. Veishratem. Et donc la conséquence de ce vieillissement, c'est que vous allez détruire. Détérioré. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce verset? Vous avez compris ce verset? Oui. Il y a fait. Tant que nous sommes dans le désert, nous sommes en réalité dans le miracle continuel. Donc, même la notion de vieillissement n'existe pas. Pourquoi? Le temps n'existe pas. C'est comme si le temps n'existait pas. L'espace n'existe pas. Tu es en dehors du système mondial. Tu es dans un miracle. Donc, tu es tout le temps collé à Dieu. Donc, ton lien avec Dieu est tellement fort que tu te demandes comment, le jour où on va rentrer sur la terre d'Israël, il y aura la matière maintenant entre nous. Et est-ce que cette matière ne va pas tellement nous avaler, la matière de la terre, de cette terre d'Eretz Israël? Nous allons devoir travailler la terre, planter des arbres, commencer à labourer, commencer à semer, commencer à récolter, commencer... Mais tout ça, ça va nous enlever le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc je préfère rester religieux dans mon désert, lié à Dieu, plutôt que de venir faire des guerres, aller à l'armée, développer une économie, développer une nation tout entière, une structure matérielle, politique. Qu'est-ce qui va nous rester de Dieu dans tout ça? Légitime ou pas? Légitime. Ça fait peur. Si tu ne comprends pas ce que Dieu veut. Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut. Dieu ne veut pas que tu sois une vapeur spirituelle, assistée dans le désert. Il veut justement que tu fasses une structure politique, militaire, économique sur la terre. Et si tu ne comprends pas cela, tu développes une Torah qui est la tienne, pas la sienne, avec tes intérêts à toi, pas les intérêts du divin. Le divin, il sait très bien toutes ces difficultés qui incombent à l'arrivée sur la terre d'Israël. Alors pourquoi il nous demande d'y aller, si ce n'était pas son but? Donc toi, tu te prends pour quelqu'un qui sait mieux que l'Éternel lui-même, l'évaneur de l'éternité. Vous comprenez l'erreur ici? C'est-à-dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne comprends rien, toi. Laisse-nous tranquilles. Nous, on t'aime, on a besoin d'être relié à toi religieusement parlant. Laisse-moi ouvrir ma Gemara tous les matins, n'importe où dans le monde. J'ai pas envie de rentrer dans cette structure. Il va falloir rentrer dans des éléments qui ne sont pas les miens, apparemment. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans la politique. Chas v'shalom, que j'aille à l'armée. Chas v'shalom, que je prenne des armes. Moi, j'ai d'autres armes, j'ai la Torah. Mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Encore une fois, il y a un dilemme ici entre la volonté de l'homme qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la volonté de Dieu qui est l'arbre de vie. Et nous, on a toujours l'impression que nous savons toujours mieux que lui. Toujours. Et jusqu'à aujourd'hui. Et on va même te trouver dans la Torah des éléments qui vont corroborer ma situation d'exilé. Et je vais finir par me persuader moi-même que j'ai raison. Extraordinaire. Vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Qui a dit à qui? Le serpent à Chava et à Adam. Exactement pareil. Vous vous rendez compte de la gravité? C'est-à-dire, Dieu nous demande, il a un programme pour nous, et nous, nous lui disons, mais on sait mieux que toi ce que nous devons faire. Il a fait, mais honte, c'est ça qui est grave.
En restant dans le désert, il y a tous les miracles. Là-bas, on va rester des hommes.
Qu'est-ce que c'est Meraglim? Quand j'emploie le terme « mais » en hébreu, ça veut dire que je suis sorti d'eux. D'accord? Donc, dans le mot, par exemple, en inosea, « mi » Yerushalayim. Donc je sors de Jérusalem. Donc qu'est-ce que ça veut dire Meraglim? En dehors des pieds. Kenolo. Donc qu'est-ce que font les Meraglim? Ils sont en train de perdre quoi? Leurs pieds. Qui a perdu ses pieds? Le serpent. Nana. Ken. C'est pas lui qui doit les habituer. C'est le programme divin que tu dois accepter et faire. Je te signale que la traversée du désert devait durer exactement 50 jours plus 11 jours. C'est-à-dire 61 jours.
C'est quand même passé d'un extrême à un autre.
Parce que justement, si nous écoutions la parole divine et nous le faisions confiance, eh bien on serait sorti, on aurait reçu la Torah. Et on serait rentré en Eretz Israël. De Har Horeb jusqu'en Eretz Israël, 11 jours.
11 jours, mais il y aurait quand même eu un extrême.
Un extrême de quoi?
L'extrême serait resté de passer de miracle.
Non, il n'y avait pas eu le temps de s'habituer à ça. Puisque la sortie d'Égypte, on était encore esclave, on est arrivé au don de la Torah à 50 degrés de sagesse, de bina, de discernement. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compris, puisque dans la Torah elle-même qui est donnée au Mont Sinaï, qu'est-ce qui est écrit? Que vous devez rentrer sur la terre. Donc, et en plus de ça, quelle est la mitzvah que nous avons reçue sur le mont Sinaï? Que les Chachamim appuient dessus? Comme si c'était une mitzvah différent des autres. Il a fait la Shemitah. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah? C'est le lien avec la terre. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas compris en réalité cette étude. Et cette étude de la Torah, c'est quoi? Il a fait Mehod. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris en réalité? Quel était le sens de la Torah qu'ils n'ont pas compris? Le Torah Ta'aretz, la Torah du Rav Kook. Alors j'ai beaucoup de questions moi. Je ne sais pas si vous en avez, je vois que vous en avez, mais il y a beaucoup de questions. D'abord, comment savait-il ce qui allait être écrit dans la paracha de Vaetranan, puisque la Torah n'était pas encore donnée avec toutes les parashiotes? D'accord, je vous ai cité un livre du livre de Dvarim alors qu'on est dans Bamidbar. Personne n'a vu ça, hein? Je vous ai embrouillé tout tranquillement. Non, je ne vous ai pas embrouillé. La Torah n'est pas un texte intuitif. Ils savent le danger, ils ressentent le danger, ils pressentent le danger de cette terre. Et maintenant, je vais aller un petit peu dans le sens des explorateurs. Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'il y avait un danger que la terre nous avale? Oui. Mais ils n'avaient pas pris en compte que quoi? Que Dieu a trouvé à cela une solution déjà, au préalable. Et laquelle est cette solution? Pas la Torah. Tu l'as dit tout à l'heure. La Shemitah. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah? C'est se séparer de la terre une fois tous les 7 ans. Pourquoi faire? Pour ne pas se laisser avaler par la terre. Extraordinaire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a déjà donné la guérison avant la maladie. Mais pour cela, il faut savoir étudier la Torah de Dieu, pas la Torah qui t'intéresse à toi seulement. Comprends ce qu'Akadosh Baruch Hu veut te donner dans cette Torah. Si tu développes une Torah qui est humaine seulement, tu ne comprends pas le sens profond de cette Torah. Donc, en gros, et je vais dire quelque chose de très grave peut-être, c'est comme si ils n'avaient pas compris le sens de la Torah des secrets, qui est en réalité la Torah d'Eretz Israël. Et en réalité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar HaKadosh. Dit que toutes les fautes de l'humanité, c'est toujours de ne pas étudier assez les secrets de la Torah. C'est toujours de là que proviennent les fautes. Ok.
J'avais une question, mais ça ne va pas être très bien parlé, mais c'est juste que vous avez parlé de la Shemitah.
Oui.
C'est le traduire par jubilé.
Non, la Shemitah, ce n'est pas un jubilé. Le jubilé, c'est 7 fois Shemitot et après, c'est l'année 50. La Shemitah, c'est en fait laisser la terre en jachère pendant une année après 6 ans. 6 ans, une année de repos. 6 ans, une année de repos. 6 ans, une année de repos. Quand je fais 7 fois ce cycle-là, j'ai une année de repos plus un jubilé. D'accord? Donc 49 et 50.
C'est les deux années.
C'est les deux années de Shemitah en fait.
D'accord. Mais ce qu'il voulait dire tout à l'heure par rapport au fait de passer d'un extrême à un autre, de ce qu'il a dit.
Oui.
C'est comme si on avait pris une drogue très très puissante qui nous avait fait voir
tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire qu'en réalité, la plus grande des épreuves dans ce monde, c'est de quoi? C'est de descendre et pas de monter. Et d'ailleurs, le Kohen Gadol, quand est-ce qu'on lui faisait une fête? Quand il rentrait dans le Saint des Saints ou quand il sortait? Quand il sortait. Pourquoi? Parce que rentrer dans le Saint des Saints, c'est très facile. Mais est-ce que tu es capable d'en sortir, de redescendre sur terre et de traduire ce que tu as vu là-bas avec les éléments très, 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 très matériels quand tu vas t'acheter des fruits et des légumes et tu te prépares une tomate et une omelette? Ça, c'est la véritable étude de la Torah. C'est de savoir sortir de la yeshiva pour retrouver la vie. Comprenez? Aujourd'hui, ce que vous faites ici, vous êtes dans un cocon. Vous êtes dans une bulle. Sortir de là, ça va être du courage. Préparez-vous à amener tout ce que vous avez étudié ici dans votre vie. Ceux qui vont rentrer à l'armée la semaine prochaine. Et ceux qui vont faire tout le reste. Mais Ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous accompagne, vous protège, que vous fassiez votre travail de protéger notre nation. La différence entre nous et les autres, c'est que nous ne sortons pas pour tuer. Nous sortons parce que nous aimons notre peuple. On ne sort pas parce qu'on haït, parce qu'on a de la haine pour les autres. On sort parce qu'on aime les nôtres. Ça, c'est une grande différence dans l'armée israélienne. Gardez-le tout le temps. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège. Tilchou le shalom, v'tachzeru le shalom, bri'im v'shlemim. Amen, keni ratzon.